Cité Radio, la web Radio Tourangelle. Je suis avec Renaud Crassous, donc, qui est le directeur du Centre National d'Équipement de Production d'Énergie et qui vient de faire donc, une conférence sur le rôle de l'électricité avec l'UTAI. Renaud Crassous, bonjour.
Bonjour.
Alors, au tout début de la conférence, vous avez évoqué cette problématique du réchauffement climatique. La Terre a connu beaucoup de variations de température. Aujourd'hui, néanmoins, on parle de réchauffement climatique. Est-ce qu'on peut dire qu'il est naturel ou est-ce qu'on peut dire néanmoins que voilà, l'homme a une responsabilité ?
Alors, on peut dire très clairement que les activités humaines ont un rôle dans le changement climatique. Hein. Aujourd'hui, il y a énormément de publications scientifiques depuis plusieurs décennies qui s'accumulent et qui se corroborent et qui s'affinent d'ailleurs dans notre connaissance du climat et qui montrent une extrême corrélation de l'augmentation du CO2, du CH4, de différents composants d'origine humaine liés aux activités humaines dans l'atmosphère et leur effet sur la température globale, l'évolution du climat. Par rapport à une époque dont on hérite depuis le début de cette période interglaciaire, hein, depuis 10 000 ans, on est dans une période de climat extrêmement stable, en moyenne bien sûr, puisque chacun connaît des variations climatiques importantes.
Qu'est-ce que vous, personnellement, vous pensez du courant climato-scepticisme, un peu qui consiste à dire que non, que ce serait tout à fait naturel en fait ?
Bah écoutez, pour moi, il y a déjà deux catégories hein, dans cette catégorie de climato-sceptique. Il y a 99% de gens qui ne savent pas de quoi ils parlent, et qui d'ailleurs ne passent pas par les revues scientifiques, ne passent pas par les circuits académiques pour faire entendre leur voix et pour démontrer scientifiquement leurs allégations. Et puis, il y a peut-être 1%, alors bien sûr les chiffres sont tirés du chapeau, il y a 1% de gens qui essayent simplement de faire les avocats du diable et de poser des questions scientifiques importantes. On parle de rétroaction de vapeur d'eau, on parle des effets d'aérosols, on parle des effets du soleil et des éruptions solaires sur le climat. Mais on reste dans une situation dans laquelle il y a très peu de publications scientifiques qui viennent corroborer leurs hypothèses. Et donc aujourd'hui, autant on a démontré d'un côté avec force observation, force corrélation et des modèles climatiques de plus en plus fins et de plus en plus poussés, qu'il y avait ce lien de causalité entre la composition chimique de l'atmosphère qui évolue sous l'effet, en particulier, de la combustion des énergies fossiles et le changement climatique. Et par contre, on n'a aucune preuve dans l'autre sens scientifique que des hypothèses formulées par des climato-sceptiques, comme on dit, seraient valables et permettraient d'infirmer le courant majeur.
Alors, sur ces dernières années, on estime à peu près à 0,76 degrés le réchauffement climatique. On sait que l'année dernière, il y a eu un accord qui a été signé, l'accord de Paris. Est-ce que cet accord peut changer encore quelque chose ?
Alors oui, je suis persuadé que cet accord peut changer quelque chose. En tout cas, c'est la suite d'une longue série de ce qu'on appelle les COP, hein, les Conference of Parties, qui ont lieu chaque année depuis maintenant 25 ans. Et qui permettent à toutes les nations de l'ONU d'essayer de se retrouver, de discuter et de chercher des solutions à cette question de changement climatique. Mais c'est tellement difficile d'imaginer comment on peut restructurer nos économies, modifier nos trajectoires de développement sans utiliser tout le pétrole, le charbon et le gaz qui est dans la Terre, que ça reste une vraie difficulté pour tout le monde, pays développés comme pays en développement. Donc cet accord de Paris, il apporte des engagements des différents pays, il discute autour de solutions. C'est une chose de le signer, maintenant il faut bien sûr le mettre en œuvre.
Aujourd'hui en France, est-ce qu'on peut dire qu'on a des politiques suffisantes en termes de lutte contre le réchauffement climatique ? Quelles sont-elles ? Qu'est-ce que vous en pensez ?
Alors c'est très difficile de raisonner à France uniquement parce que la France n'est pas une goutte d'eau mais n'est qu'une petite contribution dans les émissions mondiales, hein, bien sûr, aux côtés des géants que sont la Chine, les États-Unis. Néanmoins, on a une contribution parce qu'on a certains avantages comparatifs, notamment on a un système électrique qui est complètement décarboné. Il reste un tout petit peu de thermique, mais le nucléaire et l'hydraulique font qu'on produit de l'électricité en France sans CO2, alors que nos voisins comme l'Allemagne ou la Pologne ou d'autres pays européens produisent encore aux deux tiers à partir de combustibles fossiles. Donc on a une longueur d'avance sur ce sujet-là. Mais maintenant, il faut l'utiliser, cette électricité. Il faut bien sûr d'abord faire beaucoup d'économies d'énergie, plus qu'aujourd'hui, isoler nos bâtiments, continuer à déployer les équipements efficaces dans nos maisons, dans nos industries. Et puis ensuite, il faut utiliser l'électricité décarbonée pour se substituer aux combustibles fossiles dans les transports et dans l'industrie.
Alors comment on fait justement une électricité sans CO2 ?
Alors pour ça, il y a toute une palette de technologies. Bien sûr, la plus ancienne, c'est l'hydraulique à travers les barrages, différents types de barrages. On a en France, bien sûr, une spécificité, c'est qu'on a un parc nucléaire important. Et puis, on a tout ce qu'on appelle les nouvelles énergies renouvelables, qui sont plus si nouvelles que ça, parce qu'on en parle quand même depuis longtemps, et puis on commence à avoir déployé beaucoup de capacités, que sont le solaire photovoltaïque, l'éolien, terrestre ou maritime, le solaire à concentration, l'houleau moteur, le marée moteur, enfin, et il y a un certain nombre de technologies qui sont aujourd'hui pas matures industriellement, mais qui pourraient l'être demain ou après-demain, dans les décennies à venir, et nous permettre d'étendre encore notre palette d'options technologiques.
Alors ça, c'est dans le cas où on lutterait contre le réchauffement climatique, mais dans le pire des scénarios, qu'est-ce qui pourrait se passer ?
Alors dans le pire des scénarios, si on ne fait rien, on a tellement de charbon, de pétrole et de gaz dans le sol à exploiter, y compris ce qu'on appelle les ressources non conventionnelles, qui ne sont pas toujours très propres à aller chercher, qu'on peut amener un réchauffement planétaire de l'ordre de 5 à 6 degrés à la fin du siècle. Et quand on dit 5 à 6 degrés, c'est une température moyenne. En général, ça veut dire un peu moins sur les océans et un peu plus sur les continents. Donc ça, c'est clairement un monde qui ne fait pas du tout envie et qu'il faudrait éviter.
Et alors, si on parle de transition énergétique, quel coût peut avoir justement cette transition énergétique ? Est-ce que ça coûterait cher et pourquoi ?
Alors effectivement, la question du coût est extrêmement importante parce que si on ne va pas plus vite dans certains domaines, c'est en partie parce que les gens ont peur que ça coûte cher ou parce qu'on n'a pas su trouver les bons instruments de politique publique pour réduire le coût de cette transition-là. Donc la clé pour que ça soit pas trop cher, c'est de prendre les options quand elles sont, de développer massivement des options technologiques quand elles sont mûres technologiquement, et de pas vouloir le faire trop tôt quand elles commencent à apparaître. On a eu par exemple des baisses de coûts phénoménales sur le stockage, sur le photovoltaïque, mais aujourd'hui, planter des panneaux photovoltaïques dans des régions dans lesquelles il n'y a pas beaucoup de soleil, ça reste une aberration économique. On ferait mieux de continuer à descendre la courbe d'apprentissage et chercher des gains économiques dans les zones où il y a beaucoup de soleil, par exemple. Donc le coût de la transition énergétique, c'est principalement de l'ingénierie politique pour faire des gestes qui coûtent pas cher d'abord avant de ceux qui coûtent cher.
Très bien, merci beaucoup Renaud Crassus en tout cas.
Cité Radio.